Amis auditeurs, bonjour, c'est à nouveau Sophie pour Page en partage. Il y a des mots anodins qui n'ont l'air de rien. On les jette comme ça, comme si de rien n'était, comme pour entendre leur fracas sur l'asphalte, si ce n'est pour entendre leur morsure sur les êtres, sur les arbres, comme des haches bien limées. Sous la mer, leur froissement asphyxie les tortues marines, les prennent pour une invitation. Qui se précipitent sur leur festin, s'étouffent. Les mots mentent à midi, quand il n'y a plus rien à boire. Manger ? Quels mots creux en temps de disette ! Les yeux sont toujours plus gros que le reste. Il faut savoir raison garder. L'est-on raisonnable quand la faim vous étreint ? Les mots sont des miroirs. On se mire dedans jusqu'à se rassasier de soi, sauf les jours sans où on se trouve trop boursouflé, trop étranger, à l'idée rassurante de soi. « Vous êtes splendide, » dit l'homme dans la rue, avec ce regard qui vous mange, qui vous mordille et qui intérieurement vient vous chercher jusqu'au nu de vous-même. Ce regard vous fait ressentir quelque chose, comme une fleur qui éclot avec des bulles de respiration. Alors les mots racontent tout le bonheur du corps qui aspire à l'être. Splendide et belle, assez pour étancher toute faim. Un fruit suffit. Un fruit volé s'entend, car les regards ne doivent pas vous traquer. Gare à la balance, les mots mentent encore le soir tombé. L'aiguille est toujours trop saoule sur la balance. Quel est ce corps qui désobéit ? Alors, je ne vais pas aller trop loin, mais c'était un extrait d'un texte qui s'appelle « La nuit est une enveloppe étrange » de Nassouf Djeilani, qui est un auteur qui vient des Comores et que j'ai trouvé dans la dernière édition des lettres de Lémurie, donc c'est une édition qui rassemble un ensemble de poèmes ou de nouvelles d'auteurs de l'océan Indien, de La Réunion, de Madagascar, des Comores ou d'ailleurs, et que je vous invite à découvrir. Je voulais aussi vous parler ce matin en préambule donc d'une librairie que j'ai moi-même découverte qui s'appelle Zou et qui se trouve au-dessus de Saint-Gilles, à l'Éperon. Donc c'est a priori, quand on la voit de l'extérieur, une librairie qui s'adresse surtout au jeune public, aux enfants. Mais j'ai rencontré Nathalie qui gère cette librairie et qui fait aussi la part belle seulement aux auteurs et aux ouvrages, aux créations locales. Donc on a bien sûr une très grande production pour les petits, mais pas seulement. Donc on a aussi des livres pour adultes. Donc j'invite aussi ceux qui sont amoureux de textes locaux à visiter cette librairie qui est très jolie. Et à faire plaisir à vos enfants, bien sûr, parce qu'on trouve de nombreux ouvrages, mais aussi des ouvrages d'auteurs d'ici. Donc moi-même, j'en ai choisi certains, et je vous les présenterai sans doute la semaine prochaine. Donc, affaire à voir. Alors bonjour à tous à nouveau. Sur Radio Sud Plus, ce matin, j'ai la joie d'accueillir Lysiane Bernadette Thomas. Bonjour Lysiane.
Bonjour.
Qui est venue nous parler de son dernier roman qui s'appelle D'amour et de basalte, donc qui vient de sortir aux éditions Livres sans frontières, c'est ça ? Voilà. Eh bien, je suis contente de te rencontrer Lysiane. Est-ce qu'on peut se tutoyer ?
Oui, on peut.
Alors, apparemment, ce n'est pas ton premier roman. Tu as eu bien d'autres romans avant. Tu as toujours aimé écrire. Quand est-ce que l'écriture s'est-elle invitée dans ton parcours ?
Oui, alors c'est pas mon premier roman, celui-ci c'est le 8e. L'écriture s'est invitée très tôt, dès le CP je dirais, dès mes premiers contacts avec les livres, les poèmes surtout. Je disais à mes parents, je veux être poète plus tard, parce que j'ai réalisé qu'avec des mots, on pouvait livrer ses émotions, on pouvait inventer des mondes aussi. Donc très tôt, j'écrivais, je gribouillais des poèmes, des petits textes.
D'accord. Alors entre cette écriture personnelle et puis le premier roman, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on sait que ça y est, cette fois-ci, c'est celui qui, qui va être enfanté, qui va être donné à connaître au monde.
Ben, il y a eu du temps qui est passé, puisque le premier roman sort vraiment assez tard. Il est sorti il y a à peu près 22 ans, oui. le Souffle des Disparus. Entre-temps, j'ai été prof de lettres.
Bien sûr.
J'écrivais un peu. J'intervenais dans des classes, j'ai fait des ateliers d'écriture. Puis je faisais écrire mes élèves. J'ai écrit mon premier roman pendant que j'étais prof.
Oui.
Et à un moment donné, je me suis arrêtée pour vraiment publier et écrire.
D'accord, très bien. Alors, comment est-ce qu'on choisit son premier éditeur ? Est-ce que c'est une étape facile ? Je vois que tu as été, toujours avec Livres sans frontières. Hein. Ils t'ont fait confiance
depuis
le début ?
Non, en fait, j'ai été au départ avec Grand Océan.
D'accord.
Je l'ai choisi. En fait, j'ai participé à un concours.
D'accord.
Que Grand Océan avait lancé. Et c'est comme ça que j'ai été recrutée.
Là, tu es devenue écrivain ensuite à plein temps.
Je suis devenue écrivain et c'est vrai que c'était Jean-François Reverzy qui était l'éditeur. Et il m'a appelé tout de suite, il m'a dit « mais je cherche absolument ce genre de littérature sur les guérisseurs » puisque lui, il est hypnothérapeute. Et c'est parti comme ça, la belle aventure. C'est parti très vite d'ailleurs avec le souffle des disparus, parce que c'était le dada de Jean-François Reverzy, qui était mon éditeur. Effectivement,
moi, je l'ai lu, c'est le premier que j'ai lu de toi, et j'ai beaucoup aimé aussi, peut-être parce que le thème m'intéressait de la même manière. Mais est-ce qu'on apprend ensuite à devenir écrivain ou quelle est la part de l'écriture par rapport à toutes les autres activités qu'a un écrivain ?
Alors, est-ce qu'on apprend à devenir écrivain ? On écrit, hein, donc voilà, on devient écrivain. On apprend toujours parce qu'on se perfectionne. Pour ma part, je veux toujours faire mieux et j'espère avoir réussi. Je pense même avoir réussi puisque les gens me disent toujours que ce que je fais est toujours mieux.
Oui.
Le dernier, on m'a dit, il est encore mieux que les autres au niveau style. Au niveau style.
Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la place de se mettre devant son écran ou sur une feuille, je ne sais pas comment tu écris, quelle est la place des recherches, de la promotion, des corrections ? Est-ce que finalement, écrire, on se fait un peu une idée de la personne qui du matin au soir est en train d'écrire, mais est-ce que ce n'est pas que ça aussi ?
C'est beaucoup ça. On écrit beaucoup. Mm-hmm. Quand on écrit, on reste des heures devant son écran, devant la page. Hein.
Ouais.
Le souffle des disparus, j'ai d'abord écrit au stylo. Oui, et bien après, mais c'est vrai, il y a le reste, il y a la promotion, mais les corrections prennent beaucoup, beaucoup de temps aussi, beaucoup.
Ouais,
beaucoup,
d'accord.
Beaucoup. Il faut énormément corriger un texte avant de le livrer au public. On peut passer 10, 15 fois, 20 fois, 30 fois sur un même paragraphe.
Donc ça, on ne s'imagine pas quand on le lit que c'est un
On ne s'imagine pas, c'est un travail très, très long. Ouais. Jeanne, il était une femme, j'ai mis 5 ans pour l'écrire. Avec la recherche, Jeanne, il était une femme, est un livre énormément documenté.
Oui, j'ai vu ça. Donc alors, on va parler juste un petit peu de Jeanne, il était une femme. Donc, c'est un livre qui a obtenu le prix Wesson en 2019 et qui raconte, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous laisse le présenter un petit peu.
Alors, Jeanne était une femme, c'est vrai qu'il a été très, très bien accueilli. Il a eu le prix Wesson. Il a été finaliste au Grand Prix du roman Métis. En 2019, il a été finaliste du prix Athéna. Il a été sélectionné au prix de la ville de Saint-Denis. Et donc, c'est un roman qui raconte la vie, en tout cas une partie de la vie de Philibert Commerson, qui nous a laissé son nom
pour le cratère Commerson.
Pour le cratère Commerson. Ouais. Donc, ça fait partie de notre histoire, finalement, de l'île de la Réunion, et de Jeanne Barré. Ils ont vécu 5 ans à l'Île-de-France, au XVIIIe siècle, et cela à la fin du tour du monde qu'ils avaient fait avec
Louis-Antoine
Bougainville. Voilà.
Donc, ce livre, bon, il m'a intéressée, bien sûr. Alors, par rapport au nouveau dont on parle, d'Amour et de Basal, je voulais vous poser une question par rapport à celui-là. Ce livre parle beaucoup de botanique. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse particulièrement? Quel est ton rapport aux plantes, à la nature? Parce que j'imagine que tu as dû beaucoup te documenter par rapport à tout ça.
Alors, moi, là, oui, la botanique... alors, quand j'étais jeune, je voulais être soit prof de... botanique, enfin de bio, ouais. Soit prof de français. Donc j'étais prof de français. J'aime beaucoup, beaucoup la botanique. De plus, j'ai un fils qui est ingénieur agronome et qui est là-dedans. Donc on est vraiment en osmose et c'est pas pour rien. Je pense que j'ai choisi un personnage comme Philibert Commerson parce ouais. que je trouve qu'il ressemble à mon fils quand il était jeune. Hein, ce chercheur, ce fouineur de plantes-là, d'insectes, d'oiseaux, toujours à chercher comment fonctionne la nature. Moi, j'aime beaucoup ça. J'ai toujours aimé ouais. ça depuis que je suis toute petite. Oui. J'ai vécu à la campagne, dans les champs, dans les jardins, j'étais tout le temps fou.
Bon, après, les Réunionnais aiment les plantes en général.
Les Réunionnais aiment les plantes en général.
Sans savoir les noms et, tout ça. Mais les Réunionnais aiment les plantes, ouais. ils aiment fleurir leur jardin.
Ouais.
Moi qui ne suis pas là depuis longtemps, j'ai voulu acheter des plantes et j'ai compris que c'était incongru ici. On m'a dit, mais non, on va te donner une bouture.
Oui,
mais non, on a chez nous, il faut prendre, il faut partager.
Tout à
donc
fait.
Il y a ce partage des plantes.
Il y a ce partage. Je fais partie d'un collectif 5000 pieds de bois. Où on va dans les jardins, on va dans les vergers, on fait des boutures, on arrache les herbes qu'on ne veut pas avoir quand on veut planter autre chose. On est dans les forêts, on essaie de reconstituer des forêts endémiques. Chez moi, on a reconstitué toute une forêt endémique dans la ravine qui jouxte ma maison. Enfin bon.
Alors, on comprend mieux. Alors maintenant, le deuxième livre d'Amour et de Basal fait quand même une grande part aussi à la nature,
oui.
à la culture. On voit cet amour des plantes qui poussent comme des plantes sauvages d'ailleurs,
oui.
qui se retrouvent aussi dans ce livre.
Dans ce livre. Mais oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que de toute façon, c'est notre avenir et on sait que la planète est en danger, que les forêts sont en danger. C'est aussi pour ça, c'est pour montrer qu'il faut absolument ce retour à la nature et puis respecter cette nature.
D'accord. Bon, bah alors on a entendu ce petit mot. Autre point que j'ai trouvé un peu en commun, enfin dans votre livre Jeanne, mais aussi dans les autres livres, c'est que vous décrivez souvent des femmes fortes. Fortes, indépendantes, un peu hors normes, un peu spéciales, qui osent. D'où ça vous vient? Parce que moi, j'ai trouvé que j'ai retrouvé ça dans Le souffle des disparus avec le personnage de la tisaneuse, en quelque sorte. Et puis, bien sûr, Jeanne. Et là, à nouveau, Marie qui, toute seule, mais forte.
Toute seule, mais forte. Dans Je veux ma place au soleil, il y a un portrait de femme qui est analphabète, mais qui est aussi forte à sa manière hein, pour porter ses enfants, alors qu'elle n'a pas de mari. Peut-être que parce que moi, j'ai toujours eu envie d'être une femme forte, et que c'est peut-être ma faiblesse. Hein.
C'est votre force, je pense.
Ma force, c'est de vouloir aller vers cette force.
Oui, ce sont des belles figures de femmes.
Ce sont des belles figures
pour
de
nous,
femmes.
Nous, les femmes réunionnaises qui sont aussi fortes. Mais...
Voilà. Oui, les femmes réunionnaises sont fortes aussi. Mais ce qu'elles ont souvent, c'est qu'elles se laissent... Et effacer et mettre de côté par le masculin.
Ouais.
Et peut-être que c'est contre ça que je me lève et...
Alors, sans dénoncer ce qui se passe mal, vous montrez ce que ça peut être une femme forte. Donc, c'est des exemples.
Ce sont des exemples.
Éventuellement, qui peuvent inspirer d'autres
tout
femmes.
Tout à fait. Et je voudrais absolument être aussi forte que mes héroïnes, en fait, je pense.
Je pense.
Mais j'y arriverai.
Alors, on va parler un peu plus d'Amour et de Basalte. Alors, sans raconter ce que c'est, j'ai envie de vous demander, mais d'où vient l'inspiration d'une histoire pareille? Parce que c'est quand même quelque chose d'un peu spécial après tout ce qu'on a lu de
oui.
vous.
Oui, c'est vrai. D'Amour et de Basalte, mais c'est une véritable fiction. Mm-hmm. J'avais eu envie d'écrire quelque chose qui parle de l'accueil des étrangers, de l'accueil des migrants, parce qu'on est tous marqués par ce drame, hein, ces drames des migrants de par le monde. Donc, je voulais en même temps l'ancrer à La Réunion. Et donc l'idée m'est venue de mettre tout ça autour d'un tunnel de lave. Le tunnel de lave étant fermé, étant un espace petit aussi, contraint, qu'on est obligé de partager, puisque forcément c'est petit. Si on veut être à plusieurs dedans. Enfin, je ne sais pas comment ça a tourné.
Alors, avez-vous vous-même visité des tunnels de lave ?
Je n'avais visité aucun tunnel de lave quand j'ai écrit ce roman. Je l'ai écrit. Et en fait, il y a une personne qui est entrée dans ma vie par le livre et par nos inspirations, je dirais, parallèles, quelquefois même identiques. Il s'agit d'Alain Bertil, qui est prof de lettres, mais qui est aussi passionné de tunnels, parce que je crois de lave et de volcans, parce que je crois qu'il est né sur les volcans presque. Et je l'ai connu par des lecteurs lorsque je sortais Jeanne, elle était une femme. Ce sont des lecteurs qui m'ont dit, mais vous avez écrit sur Jeanne Barré, vous savez qu'il y a quelqu'un qui a fait réaliser un film sur Jeanne Barré et Philibert Commerçant. Ah bon, qui est-ce? Et donc on m'a donné son contact, je l'ai contacté, effectivement on s'est rendu compte qu'on avait eu la même inspiration. Pendant que j'écrivais Jeanne, lui il réalisait son film, sans le savoir en fait, et c'est quand même pas courant parce que ce sont pas des personnages très connus.
C'est une belle synchronicité.
C'est une belle synchronicité. Donc on se connaît et on se côtoie, et puis je lui dis, je suis en train d'écrire un autre roman, et que ça se passe autour d'un tunnel de lave. Il me dit, ça alors, moi je suis passionnée des tunnels de lave. Donc c'est assez rigolo, je n'en avais jamais visité, je savais que ça existait. J'avais écrit à peu près la moitié ou un peu plus les deux tiers de mon roman quand je l'ai rencontré. Et lui, il m'a aidé à sublimer ce personnage, je dirais, du tunnel de lave dans mon roman. J'en ai visité évidemment, et puis on a même...
Alors où est-ce qu'on peut en visiter à La Réunion?
Dans le sud sauvage, beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup à La Réunion, des tunnels de lave. Et c'est lui d'ailleurs qui a écrit la préface du roman.
Très bien, pour les tunnels de lave.
Et il a réalisé un petit film aussi, que je vais passer sur Facebook, dans le tunnel de lave, pour la sortie de D'amour et de basalte.
Ah on se réjouit de voir ça. Alors j'avais une question un peu drôle à vous poser, mais quel est votre rapport au tang? Vous les décrivez dans votre roman.
Oui.
Est-ce que vous en avez peur? Est-ce que vous êtes dégoûté? Est-ce que vous en avez mangé?
C'est vrai que c'est une petite bête qui n'est pas très jolie. C'est pour ça que je me suis mise un peu à la place de Marie. On est toujours le personnage souvent principal de son roman un peu. Mais on surmonte sa peur, parce qu'il n'y a pas à avoir peur. C'est ce que je dis. C'est un être vivant comme nous, comme tous les êtres vivants. Mais surtout, je savais ce que j'ai dit, savoir que historiquement le tang a été introduit à l'île de la Réunion pour apporter de la nourriture carnée aux Réunionnais, donc au XVIIIe siècle. Je sais que les Réunionnais en consomment. Et puis, l'idée du tang, c'est aussi l'idée de dire que, avec tous les problèmes que nous avons, que nous rencontrons actuellement sur la Terre, et à La Réunion, bien sûr, on va être obligé à un moment d'en venir, et on y vient déjà, d'en venir à ces... Comment de revenir à ces pratiques ancestrales. Parce que on ne pourra pas faire autrement, et aux patates, aux songes,
on redécouvre un peu tout ça, mais peut-être
aux racines, aux tangs,
les tangs ont aussi leur place sur la table à La Réunion.
Voilà, et les champignons
aussi.
Parce qu'il y a aussi des champignons dans le. Alors, à La Réunion, c'était plutôt les champignons, le géranium, mais j'en parle. Mais c'est vrai qu'il y en a moins, mais le géranium, j'aime beaucoup aussi. Il y a toujours des champs de géranium dans mes romans aussi.
Oui. Ça fait partie de la culture.
Ça fait partie des choses vers lesquelles on va devoir se tourner, et on n'a pas le choix.
Ok, alors je vais dire un petit peu comment j'ai senti votre roman. Donc ce roman tourne autour de trois protagonistes qui s'ignorent au début, mais qui ont quand même des liens communs cachés. Donc c'est l'histoire en fait d'improbables rencontres pour moi entre Marie, donc c'est une jeune femme d'origine créole, mais qui revient vers ses racines pour aussi se guérir de son passé. Alors un autre qui est Angelo, je dirais un bougue un peu rustre, un peu muet, le gardien de la cour, le jardinier, donc ils n'ont rien en commun. et un enfant, Ronaldo, qui est aussi un peu là entre les deux. Et ce que personnellement, moi, j'ai aimé, c'est comment les liens se tissent, hein, entre le rejet, l'acceptation, les allers-retours. On a un rythme très lent, j'ai trouvé dans ce livre, un peu hors du temps, et une description de la nature qui est généreuse et sauvage, comme un personnage aussi à part entière. Donc, c'est ça que j'ai aimé, c'est ce rythme lent, cette intériorité aussi, puisque on a les chapitres, on est un petit peu dans la tête de chacun des personnages, et on voit que... Alors Marie, elle, ça cogite beaucoup, ça va, ça vient. Puis Angelo, c'est le calme plat. Oui, finalement, oui, rien ne le dérange. Donc on voit que dans notre intériorité, on est tous très différents. Et ce qu'on dit n'a rien à voir avec tout ce qui a amené avant. Alors il y a beaucoup de silence, c'est vrai, dans ce roman, mais beaucoup aussi de cogitation intérieure. Alors, j'ai vu qu'il se déroulait à Lillette aux Citronniers, et je vous assure que j'ai été voir sur Internet où se trouve Lillette aux Orangers. Parce que dans ma tête, c'était Lillette aux Orangers, mais en fait, Lillette aux Citronniers, c'est un lieu que vous avez un peu inventé, mais qui pourrait avoir des liens avec Mafate. Est-ce que vous aimez
oui.
Mafate, la nature, les randonnées, tout ça?
Ah oui, moi, je place beaucoup mes romans dans des lieux comme ça. Ma place au soleil se situe dans le sud sauvage, justement, dans un endroit inhabité, où il n'y a qu'un ermite. J'aime beaucoup les ermites, j'aime beaucoup les grottes, j'aime beaucoup les cavernes. C'est pas étonnant que je tombe sur un tunnel de lave. Il y en a toujours dans mes romans. Je crois que ce sont des lieux où on s'isole, où justement, c'est un peu comme des cavernes de Platon, dans lesquelles on est là avec nos illusions, avec nos croyances, nos fausses croyances, parce qu'on n'est pas allé au fond de nous-mêmes, on n'a pas osé, on a eu peur, et à un moment donné, on va sortir de ce trou, de cette caverne, on va sortir de nous pour nous trouver, pour vivre en accord avec nous-mêmes. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de lenteur. De lenteur parce que les personnages, parce qu'il faut qu'ils prennent le temps.
Ils maturent à l'intérieur.
Il faut que ça mature.
Lâcher prise.
Il faut qu'ils prennent le temps de descendre.
Voilà, leurs attentes qui sont changées.
De descendre au fond d'eux pour aller chercher ces peurs, pour les étaler, pour comprendre ce qui se passe au fond d'eux, en particulièrement Marie et le petit garçon aussi, mais surtout Marie. Oui, c'est un roman psychologique.
Tout à fait, je trouve que ça se passe. Comment est-ce que finalement, quand notre quotidien est bousculé et qu'on doit partager un territoire, on évolue, on doit changer, on doit accepter, on ne doit pas tout renoncer non plus. Et puis finalement, ça s'arrange assez bien.
Il faut surmonter ses peurs.
C'est la peur de l'étranger.
Peur de l'étranger. Mon sujet, ce qui me menait, c'était ça. C'était comment surmonter ses peurs. On a beaucoup de peurs ici à La Réunion. Oui. Il y a quand même quelqu'un qui a écrit L'île à peur, Rose Perev. Donc moi je suis réunionnaise, je suis comme tout le monde, j'ai beaucoup de peurs aussi. On en a beaucoup, beaucoup ici. C'est dû à l'environnement, c'est dû à tout, c'est dû au relief, c'est dû à notre histoire. Voilà. Donc Marie, même si elle n'a pas vécu ici, eh bien, elle porte plein de peurs qui sont dues à toute son histoire, qui est quand même en elle, elle n'a pas vécu ici. L'histoire ancestrale, l'histoire de ses parents, de ses grands-parents, mais aussi à son histoire personnelle d'enfant, de femme. Et comme tous, on a toutes ces valises qui sont remplies de blessures et on ne le sait pas. Et donc, qui nous occasionne des peurs. Donc, dès qu'elle va rencontrer l'étranger, qu'elle n'attendait pas, eh bien, sa première réaction, c'est la peur.
Ouais.
Peur de l'étranger, tout
peur
bête.
De l'étranger. Parce peur qu'il de... est différent, parce qu'on ne l'attendait différent. Pas, parce qu'on ne voulait pas, tout simplement.
Parce qu'on ne veut pas, parce qu'on a peur de perdre ses prérogatives. Mais tout ça est légitime. L'idée, c'est comment surmonter tout ça? Est-ce qu'on va y arriver? Comment faire pour partager un espace, la vie dans un espace qui est contraint? Et c'est une question du roman, de l'histoire, mais c'est aussi une question que l'on doit se poser aujourd'hui sur la Terre.
Oui, bien sûr. Puisque
c'est une question d'actualité.
On doit partager l'espace. Et...
on va être obligé de plus en plus. La population augmente. Il y a toutes ces migrations. Il y a tous ces gens qui arrivent. Alors, je n'ai pas la solution. Mais dans le roman, eh bien, les personnages ont trouvé des solutions. Oui. Et ça passe par l'amour inconditionnel, en fait.
Ah, c'est beau. Alors, je vous propose de lire un petit passage qui décrit l'endroit hein, où se trouve notre héroïne, qui est un endroit magnifique.
Oui, Lilette.
Donc, Lilette au citronnier.
Lilette au citronnier, voilà. Que j'ai inventé, voilà.
Alors, allons-y. Un tronc interminable qu'un cyclone aurait jadis chaviré et qui serait resté accroché au-dessus des ravins qui tranchent la montagne. Voilà à quoi s'apparente le chemin que Marie emprunte pour gagner le bourg de Lilette au citronnier. Une mousse de vert de gris croît entre les fissures d'un asphalte que la terre et le temps grignotent sans façon. Si on tend l'âme et l'oreille dans toutes les directions, avec le désir de communier avec l'indicible, on devine la succion des racines, des insectes et de l'eau. On perçoit la respiration de la terre dans l'immensité de l'espace. Une brèche, telle une erreur géologique dans la montagne qui enserre l'îlet, encadre, très loin en contrebas, des zébrures grises rehaussées de blanc. La mer n'est jamais loin. Chaque élément est à sa place, dans une mobilité mesurée. « Ce n'est pas tout à fait le silence, » se dit Marie. « C'est le rassurant bruit de la vie que je recherche. Je dois l'entendre à tout prix. » Dans la sérénité. Voilà. Donc, que vous inspire ce passage?
Alors, même si j'en suis l'auteur, je suis toujours émue quand je lis des passages ou quand quelqu'un lit des passages. J'ai mis beaucoup de temps, bien évidemment, pour écrire ce passage. C'est le genre d'écriture que j'aime. C'est-à-dire, une autre lectrice m'a dit, c'est de l'écriture ciselée. Et c'est de l'art,
tout
c'est
à
de
fait.
Voilà.
Donc, j'ai envie de dire que ce qui me plaît dans votre écriture, ouais, j'ai écrit une écriture délicieuse à déguster comme un dessert catégorie 1. Donc il y a vraiment aussi cet amour des mots, cette capacité à les rendre de façon ciselée comme vous dites. Et ça c'est une constante dans tout le roman. Donc j'invite mes lecteurs à aussi aller vers le texte qui est beau en soi, qui peut se déguster.
Voilà. Et pour Lilette, au citronnier, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce roman est aussi construit autour de l'idée de l'enfermement. Oui. Et comment sortir de cet enfermement? Parce que l'histoire se passe dans un Lilette. Mm-hmm. Lilette est située... D'abord, l'histoire se passe dans un tunnel, oui, de lave. Le tunnel est dans un Lilette qui est fermé. Lilette est dans une île qui est quand même fermée, un espace petit,
clos. Ouais.
Clos. Et les personnages eux-mêmes sont enfermés dans leurs illusions, dans leurs croyances, dans leurs fausses croyances, dans leurs peurs, dans leurs secrets, les secrets de famille, ouais, les non-dits. Parce qu'il y en a dans le roman.
On ne va pas dévoiler la fin, mais
on va pas dévoiler l'histoire. Les activités secrètes,
ouais,
la mutité. Ce personnage qui est muet, oui, au départ. Donc, tout est autour de l'enfermement.
Oui.
Et il faut que les personnages parviennent à casser toutes ces limites. Se rencontrer vraiment.
Oui.
D'abord eux-mêmes,
oui,
en tant que personne, soi, et pour pouvoir ensuite rencontrer les autres. C'était ça l'objet et je suis assez contente de,
oui,
parce que les premiers retours de lecture arrivent et les gens me disent que c'est vraiment ce qu'ils ressentent.
C'est très très beau. Donc on a une illustration poétique de notre unicité, de notre insularité, des particularités de la Réunion. J'ai aussi beaucoup aimé ce grand domaine un peu à l'abandon, hein, celui des Amédées, qui fait un peu rêver. C'est ce passé un peu comme colonialiste. Je ne sais pas, est-ce que c'est un endroit vous a inspiré plus qu'un autre, parce que c'est aussi un.
Ben, c'est un endroit que j'ai inventé, mais après c'est le produit de tas de choses que,
ouais,
j'ai vues. C'est souvent comme ça. J'invente des endroits, mais je les vois aussi. J'aime beaucoup ces endroits, des hauts qui sont encore vides, qui ont une vie. Et on la sent, cette vie, des gens qui étaient là. On sent aussi, ce n'est pas que du tout beau, hein. On sent aussi toute cette souffrance, parce que tous ces champs de géranium qui ont été abandonnés, ont laissé derrière eux des gens qui ont souffert, qui ont beaucoup travaillé, qui ont été obligés d'abandonner leurs terres, qui sont quelquefois allés en ville, dans un exode rural. Il y a aussi une sorte, je fais un clin d'œil aussi au néocolonialisme, bien sûr, hein, de cette famille Amédée, qui est une famille de blancs des hauts. Je ne vais pas faire de dualité entre blancs.
Oui, bien sûr.
Mais c'est vrai, c'est une réalité de notre histoire.
Elle vit un peu en dominante quand même. Elle est chez elle.
Elle arrive en dominante. Elle est blanche. Voilà, elle est blanche, des gros blancs. Il y en a encore à la Réunion, il faut le dire. Mais je ne le dis pas du tout avec.
Vous la stigmatisez pas.
Je ne stigmatise pas. Je dis les choses comme elles sont. Mm-hmm. D'ailleurs, cette Marie, c'est une femme absolument sympathique et
tout à fait.
C'est un personnage très très sympathique.
Hein. Oui. Ouais. Alors est-ce qu'on pourrait en faire un film, vous pensez ?
Ben oui, mais à chaque fois on me dit ça. On me dit toujours la même chose pour mes livres. Quand je vais voir des élèves dans les classes, on me dit mais madame, quand est-ce qu'il sort le film La Terre jumelle ? J'ai dit mais j'en sais rien les enfants. On verra bien de ces jours s'il y a quelqu'un qui.
Alors le personnage d'Angelo aussi, moi je le trouve assez fascinant.
Oui,
parce
moi j'aime beaucoup.
Il est un peu la force tranquille. Il se soumet pas à ce qu'elle pense qu'il devrait être en fait. Elle le voit comme quelqu'un qui devrait être inférieur. Et finalement peut-être lui devoir des choses, et lui, on va dire comme de l'eau sur feuille de songe, ça le touche pas plus que ça, ses récriminations. Il continue son petit bonhomme de chemin, et puis
Tout à fait. Angelo, c'est ce personnage de ces auteurs néocolonialistes là que je disais là, ouais. de propriété. Donc lui il est pauvre, il n'a rien, il n'a vraiment rien, lui justement je l'ai vraiment presque schématisé, hein. Il est sage en fait. Hein, c'est quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui ne veut pas remuer aussi l'histoire, qui ne le regarde pas.
Hein. Oui,
et donc il est mesuré.
Il est mesuré. Après, c'est un agriculteur aussi. Il a un amour pour les plantes.
Un grand amour pour les plantes. Alors moi, ça, j'aime beaucoup les gens qui aiment les plantes et qui s'occupent de la terre. Parce que je suis une terrienne.
On va peut-être faire juste une petite pause pour écouter, puisque ce prénom m'inspire, hein, ce morceau qui s'appelle Tiangelo.
Oui.
Voilà, on revient
très
juste
bien.
Après.
Ça ira très bien.
D'Angelo, t'es la ville Saint-François brûlée. D'Angelo, c'est un vendeur s'adoré. D'Angelo, tout seul là-haut, lutter en fleurs. D'Angelo, n'avait point personne dans son cœur. Pourtant un jour, lui la descendance dans ce prince ennemi pour aller vendre dans son panier d'Hortensias azalées. D'Angelo, dans le réguillon, t'es guette la lune, prendre fait son pion. D'Angelo, la descendre bien content. D'Angelo, la ville Saint-Denis 4h15. D'Angelo, pose son panier dans le grand bazar. D'Angelo, boire pour son collet fatigué. D'Angelo, la partie boire un petit café. Mais qu'au Saclay, d'Angelo, voilà que son cœur va dans son dos. Son Jean-Mi planche, voilà que rien.
Patrick Lénin, là pas trop loin, dit la poguette à tuer en coin, dit la souris, alors tu es là du oui.
Tiangelo, leur met son panier sur son dos. Tiangelo, avec Marguerite Armandao. Tiangelo, tous les Dion l'a battu. Tiangelo, les bienheureux la point positive.
Ton petit casier attend la tourée, va te clapper puis t'en manger. Ton trail chouchou sera bien arrosé. Dans le fil à eau, il fait bien frais. Petit oiseau vert dans la forêt, parfait concert pour ça toute la journée.
Radio Sud plus Réunion, la sensation. Radio Sud plus Réunion.
Bonjour chers auditeurs, je suis à nouveau avec Lysiane Bernadette Thomas pour son livre d'amour et de basalte. Et on parlait d'un de ses personnages qui s'appelle Angelo. Donc je vais vous lire un petit passage qui décrit ce personnage d'Angelo que vous aimeriez si vous le lisiez aussi comme moi. Soudain, dans l'étendue de broussailles, du côté opposé à la ravine et au tunnel, là où l'ombre immense d'un piton bascule sur le domaine, Marie distingue le grillage d'un enclos. Perché sur un mât au centre, un coq n'arrête pas de répondre à l'écho que lui renvoie le piton, ce qui provoque des vitupérations interminables et des surenchères de cocorico dans le lointain. Des poules gloussent, caquettent, des ailes battent. Et elle le voit, plus superbe que le coq. Il est là, auprès de la volaille. Il leur donne du grain, altier, à l'aise au milieu du chahut. Zeus en son Olympe. Son bras droit distribue la manne par large poignée. Le soleil et l'ombre le drapent d'un chiton bordoré. De dos, celui qui ne dit rien aux hommes a l'air de bavarder tranquillement avec les bêtes, alors que cette nuit, il en a éventré une avec la malignité d'un artiste pervers posant une œuvre éphémère pleine de sens. Il s'absorbe dans la contemplation d'un plumage, se tourne vers un pigeon, interpelle un poulet timide. Marie n'a jamais vu de scène plus absurdement belle. Elle stoppe sa marche et l'observe. C'est son heure de langage, parvient à se dire l'ancienne enseignante dans un sarcasme libérateur. Il écoute la volaille se raconter, inculque aux non-partageurs des principes de bon comportement, rabroue les bêtes trop voraces, félicite celles qui ont engraissé. Le voilà qui s'accroupit et lisse les plumes d'une tête. Il semble même à Marie percevoir sa voix conciliante et douce. Il n'est pas totalement muet. Voilà pour Angelo. Donc, qui s'occupe des plantes, mais aussi des animaux, hein, qui est au plus proche de la nature.
Il est au plus proche de la nature. C'est vraiment, pour moi, le modèle de l'agriculteur, du planteur, le modèle de ce qu'on va être tous demain. Je reviens là-dessus. J'espère pas par la force des choses, j'espère que ce sera par amour, parce qu'en fait, les descriptions que je fais de ces personnages, je fais des descriptions très chaleureuses et très belles.
Bien sûr.
Tout en montrant que c'est dur, c'est une vie qui est dure, je ne vais pas non plus raconter que c'est un Éden, la vie d'agriculteur dans les hauts. Mais il y a de la contemplation. J'ai toujours vu les agriculteurs. Mon père est agriculteur et il était contemplatif aussi.
Il y a une certaine authenticité.
Il y a une certaine authenticité.
Au contact de la nature.
Oui. Et puis, forcément, forcément. Ouais. On en a plus, à mon avis, au contact de la nature qu'être assis dans un bureau. On a plus d'authenticité et plus d'occasion d'être contemplatif, d'être en lien avec nous-mêmes, vraiment en lien profond avec la nature, avec son âme, en fait. Voilà.
Radio Sud plus Réunion.
Très bien. Donc, par rapport à la sortie de votre livre, est-ce que vous avez d'autres endroits où il va être présenté, des dédicaces, des choses que vous voulez partager avec les auditeurs?
Alors, il y a des dédicaces qui ont été suspendues.
Ah.
Je crois que celle de chez Gérard est maintenue. en octobre. On n'a pas fixé de date encore à cause des événements.
Ouais.
Chez Autrement, ça a été suspendu. Donc, en fait, il faut se renseigner. Je crois que on mettra au...
Vous mettrez sur votre page Facebook,
bah, oui, je mettrai sur ma page Facebook. Donc, là, demain et après-demain, je suis pendant les journées du patrimoine au musée de Stella, Matutina.
D'accord.
Samedi, dimanche. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a des choses prévues dans les médiathèques. À la fin octobre, à la médiathèque de Saint-Leu.
D'accord.
On fera une belle rencontre comme celle qu'on a faite à l'espace Leclerc avant-hier. Et puis, c'est vrai qu'on ne peut pas donner comme ça de date maintenant. C'est un peu particulier.
Oui, on vit un moment en particulier.
En revanche, le livre se trouve partout, dans tous les...
Alors oui, j'invite donc les auditeurs à découvrir ce livre d'amour et de basalte. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, éventuellement, Jeanne, il était une femme, donc qui est le précédent. Et je voulais te remercier d'être venue nous en parler. Pour finir cette entrevue, on va écouter un petit morceau de musique puisque Marie est notre héroïne du jour. On va écouter Petite Marie. Merci.
Parfait.
Isabelle, à bientôt.
Oui, merci à toi et merci aux auditeurs et aux lecteurs.
Ok, très bien. À la semaine prochaine.
Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri. Sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Petite Marie, je t'attends transi sous une tuile, ton toit, le vent de la nuit froide, me renvoie la ballade que j'avais écrite pour toi. Petite furie, tu dis que la vie c'est une bague à chaque doigt au soleil de Floride. Moi mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois.